Vous écoutez France Culture.
Le Salon Noir. Il l'a dit, l'Afrique est un monde anhistorique, non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire de l'universel. Curieusement, cette phrase d'Hegel de 1822 paraît encore d'une rare actualité. D'ailleurs, depuis la naissance de l'homme moderne, qu'est-ce que l'Afrique aurait pu inventer ? Mon invité a consacré sa carrière à cette Afrique de l'Ouest. On lui doit d'ailleurs de très belles découvertes, notamment au Mali, en territoire Dogon. Hier à Bamako, Eric Wiscom, bonjour.
Bonjour à vous.
Et merci d'être avec nous. Professeur à l'Université de Genève, vous enseignez aussi dans les universités Cheikh Anta Diop de Dakar et de Bamako et êtes directeur du laboratoire archéologie et peuplement de l'Afrique. Ethnographe, ethnologue, anthropologue, la recherche française a entrepris une multitude de travaux chez les Dogons. On rappellera et on reliera à ce propos l'œuvre de Marcel Griol et notamment le Renard Pâle. C'est toutefois vous, un Suisse, qui aujourd'hui fait l'archéologie du pays Dogon.
Alors je précise immédiatement, je ne suis pas seul. En fait, nous sommes une équipe conséquente, une trentaine de chercheurs motivés, d'étudiants, de techniciens de plusieurs pays différents. Suisses, français, allemands, maliens, sénégalais, ivoiriens, qui travaillons sur le terrain avec un objectif commun. Dans une pluridisciplinarité qui, je pense, doit être soulignée et qui est très importante aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le travail d'un seul homme, je le précise tout de suite. Mais effectivement, les Suisses sont actuellement un certain leadership dans l'archéologie subsaharienne.
Et très tôt d'ailleurs, parce que vous êtes implanté déjà maintenant depuis, on va dire quoi, 30 ans un peu plus ?
Je dirais qu'on est tenace. Et puis, c'est difficile de nous avoir hors du territoire.
Plus que les chercheurs français qui abandonnent un peu le terrain, visiblement.
Manifestement, il y a une constante chez nos bailleurs de fonds qui nous permet justement d'envisager de la recherche à long terme, ce qui n'y a peut-être plus dans certains autres pays.
Alors, je reviens sur cette phrase terrible d'Hegel. Quel est ce blocage culturel qui nous fait percevoir l'Afrique ainsi ?
Oh, c'est avant tout un blocage culturel, je pense, qui est issu d'une longue tradition aussi bien portée par les politiciens que par les missionnaires, que par les premiers coloniaux qui justifiaient la colonisation du continent africain parce que c'était des gens qu'il fallait éduquer. Et de là, évidemment, est venu le fait qu'on disait l'Afrique n'a pas de culture, c'est nous qui allons leur apporter. Et ça gênait effectivement, de trouver là-bas des ensembles culturels prestigieux. Et c'est intéressant de voir que toutes les premières grandes découvertes archéologiques que l'on a fait en Afrique, que ce soit au Zimbabwe avec les ruines des temples, que ce soit à Ifé avec des magnifiques sculptures en terre cuite ou au Bénin avec des têtes en bronze, on les a immédiatement mis au compte des Portugais, voire même de l'Atlantide. C'était inacceptable à l'époque que les Africains aient pu avoir une culture.
En tout cas, tout le monde ne sait pas. Bien sûr, il y a toujours l'esprit malin, le commerçant, le businessman qui préfère ne rien voir. Mais les Français ne savent pas, de fait, que l'Afrique a un réel passé tout à fait extraordinaire.
Malheureusement, cela veut dire que nous avons mal fait notre travail. Parce que c'est à nous, archéologues et historiens, à justement diffuser le message que ce continent a un passé prestigieux.
Alors, je le disais, cette société Dogon a vu passer tout ce qui existe d'anthropologues africanistes, notamment français. Mais comment est perçu l'archéologue ?
Alors, au niveau des populations locales, nous sommes très très bien accueillis. Peut-être avec plus de facilité que des ethnologues. On nous donne plus facilement les autorisations de fouilles que d'aller enquêter dans l'histoire des familles, bien que nous n'avons jamais eu personnellement de problème avec cela. Par contre, auprès des communautés de chercheurs, ce fut un peu difficile au départ. Je me souviens très bien la réaction d'une très célèbre ethnologue française, paix à son âme, que je ne citerai pas, qui, il y a une vingtaine d'années, m'a dit « Mais Eric, qu'allez-vous faire en Pays Dogon ? J'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout écrit. »
Alors, je voudrais signaler aussi, puisque on en parlait avant, en préparant cette émission, vous avez écrit une sorte de petit précis, justement, sur l'histoire de l'Afrique.
Oui, donc Adam Ba, ma collègue Adam Ba, a édité avec plusieurs d'entre nous un livre qui s'appelle « Petit précis d'histoire à l'attention du président Sarkozy », qui était justement une réaction au discours de Dakar que vous connaissez bien.
Et proche donc des Gaules et de 1822.
Certaines phrases sont malheureusement étonnamment communes.
Alors, sur la photo du site du Salon Noir, vous figurez au centre d'un sondage archéologique. Autour des habitants observent la scène. Comment ça se passe?
Oui, ça se passe très très bien. D'une part, nous avons toujours associé les villageois à nos travaux et aussi à nos découvertes. Nous leur faisons toujours un feedback de nos découvertes. Mais en plus, on engage aussi beaucoup de personnes localement. Alors la photo, je vais tout de suite dire, est un petit peu trompeuse parce que la photo que vous voyez sur votre site, c'est une photo qui est prise du Sénégal, vu qu'actuellement nous ne pouvons plus travailler au Mali pour des raisons géopolitiques. Notre chantier de fouille était à moins de 90 km de la ligne d'avancée des troupes djihadistes. Donc actuellement, c'est le Sénégal qui nous a offert de nous accueillir toute l'équipe. Donc on s'est déplacé, la trentaine de chercheurs internationaux s'est déplacé vers le Sénégal oriental et nous continuons nos travaux là-bas sous l'égide des mêmes bailleurs de fonds.
En pays Dogon, vous pouvez fouiller partout. On vous laisse aller à tout endroit. On sait l'importance, malgré tout, de certains sites.
Disons, moyennant une bonne préparation et moyennant aussi de prendre le temps de bien expliquer aux villageois et aux populations ce que nous faisons, ce que nous cherchons et de les associer, nous avons généralement peu de problèmes. Je veux dire, en 30 ans, je n'ai eu qu'une seule fouille qui m'a été interdite.
Où ça ?
C'était dans la plaine du Sénon, en pays Dogon. C'est une vaste plaine de sable et il y a un rocher magique qui sort comme au milieu de la planète Mars, au milieu de cette plaine. Et au pied de ce rocher, il y a un abri sous roche avec des industries lithiques, manifestement du néolithique ancien, voire plus ancienne. Et malgré plusieurs jours de palabres, on m'a toujours refusé de l'autorisation de fouille. Et en fait, au milieu de cette grotte, il y a le siège sur lequel on introduise le roi local, le Ogon. Et si j'avais insisté, on aurait peut-être pu avoir l'autorisation de fouille, mais ce n'était pas le but non plus de vexer les populations, de choquer les populations. Donc c'est le seul endroit où je n'ai pas pu fouiller en près de 30 ans.
La préhistoire que vous fouillez, bien sûr, en pays Dogon, est bien entendu la nôtre, c'est celle de l'humanité. Mais est-ce que c'est bien leur histoire ou leur préhistoire ?
Ça, c'est une question très pertinente.
Est-ce que les Dogons s'accaparent donc ce passé extrêmement lointain ?
Les intellectuels Dogons, oui. Mais par contre, les populations locales, non. Pour elles, l'archéologie, l'histoire commence avec l'histoire de leurs ancêtres par lesquels ils sont liés par la tradition orale. Donc lorsque l'on fouille des sites paléolithiques ou néolithiques, ils regardent, ils écoutent poliment quand on leur dit ça date d'il y a 5000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années. Par contre, ils sont extrêmement intéressés dès qu'on leur dit « mais ça, c'est du 14e siècle, 16e siècle, c'est contemporain de la première arrivée des populations qui occupent aujourd'hui la région ». Alors à ce moment-là, on a un intérêt direct des populations. Par contre, il est clair que dans les sphères intellectuelles, notamment à la capitale ou dans le milieu des enseignants, là, on a un intérêt pour toutes les périodes.
Vous n'êtes bien sûr pas anthropologue, mais vous vous intéressez par force à l'anthropologie, puisque c'est un champ absolument extraordinaire pour l'archéologue. On était avec des populations animistes, en deux mots, qui sont devenues au fur et à mesure musulmans, c'est bien ça ?
Non, en fait, on est dans le pays Dogon, moi je le caractériserais par une région particulièrement syncrétique, où on a une cohabitation pacifique et tout à fait harmonieuse entre animisme, différentes religions chrétiennes, catholiques, protestantes, de différentes tendances et musulmans. Et ça se passe pour le moment, je dois avouer, très très bien. Le village où nous habitons, où nous avons notre base de recherche, étant grosso modo un tiers chrétien, un tiers musulman, un tiers animiste. Et il faut le noter, chacun respecte les fêtes de l'autre. Et à la Noël, nous avons l'imam qui vient saluer à la base de recherche parce qu'il considère qu'en tant que blanc, nous sommes chrétiens. Par contre, tous mes collaborateurs animistes et chrétiens mettent une chemise blanche le jour du Ramadan pour aller saluer à la sortie de la mosquée les musulmans. C'est un magnifique exemple de tolérance.
Et Quizcom, en 1996, votre équipe découvre un gisement exceptionnel, Ounjougou.
Ounjougou. Oui, c'est un site qui, effectivement, on peut le dire, a bouleversé la connaissance de la préhistoire ouest-africaine, non seulement en montrant que l'archéologie de la région ne commençait pas avec les Dogons, mais commençait peut-être il y a près d'un million d'années.
Et puis au XIVe siècle.
Pas au XIVe siècle. Et puis en plus avec des continuités aussi bien en paléolithique qu'en néolithique qui sont exceptionnelles. Et puis en plus de ça, ça c'est évidemment la cerise sur le gâteau, nous avons découvert une des plus anciennes céramiques au monde, bien positionnée en stratigraphie, avec son contexte. Donc c'était pas seulement le fait de découvrir le plus ancien, mais c'était aussi de comprendre pourquoi le plus ancien.
Alors c'est une grande coupe, une sorte de grand ravin de 16 mètres de hauteur où se succèdent, on va dire, 100-150 000 ans d'histoire. C'est un endroit donc absolument clé pour la chronologie et pour l'histoire du Mali.
Oui, c'est un fond de vallée qui s'est remblayé et dans le remblai, par 16 mètres de profondeur, il y a effectivement des céramiques avec de l'outil qui a été très très bien daté par différentes méthodes, carbone 14, thermoluminescence et autres. Donc on a une datation absolument parfaite. Et puis par 16 mètres de profondeur, évidemment, il n'y a pas de percolation. Ce n'est pas un lapin qui a amené cet tesson par 16 mètres de profondeur, ça c'est évident.
Alors dans ces falaises, dans ces ravins, il ne s'agit bien sûr pas de renards pâles comme Marcel Griol, mais d'une mouche et d'un hibou, puisque visiblement vos sites s'appellent le ravin de la mouche et le ravin du hibou. Est-ce que l'on doit y voir, moi j'y ai vu tout de suite, une sorte de tradition orale, Dogon, avec quelques jolis mythes à la clé?
Là je suis obligé de vous décevoir, ce sont des lieux qui n'avaient pas de nom vernaculaire, donc la mouche c'est une mouche qui a passé une journée entière à embêter une de mes étudiantes. Et puis le hibou, c'est un hibou qui venait tous les soirs nicher au-dessus de la coupe stratigraphique. Donc de là, le nom devenu célèbre maintenant de Ravin de la Mouche et Ravin du Hibou à Ounjougou.
Alors comment fouille-t-on 16 mètres d'épaisseur de gisement? Puisque j'imagine ce qui vous intéresse, c'est absolument pas ce qu'il y a au-dessus, mais en général ce qu'il y a au-dessous. Peut-être pas tout au fond d'ailleurs, puisque vous intéressez plutôt à une période intermédiaire, le dixième millénaire avant notre ère.
Non, ce qui nous intéressait, c'était quand même les couches profondes, disons entre, grosso modo, pour donner une image à l'auditeur, entre 11 et 15 mètres. Donc nous avons profité de l'érosion. Donc il y a une forte érosion dans la région. Et nous avons profité des décapages successifs, année après année, provoqués par la saison des pluies, pour avoir accès aux couches profondes. Alors on a fouillé par petits secteurs, des secteurs de 6 voire 10 mètres carrés, et puis évidemment par plan stratigraphique, par 15 mètres de profondeur. Et là, on a eu beaucoup de chance. On a trouvé à la fois de la céramique, à la fois des outils positionnés en stratigraphie, ce que nous, dans notre jargon, on appelle « in situ ».
Alors, disons-le, vous l'avez dit même avec Viscom, voici 10 ans, vous découvrez un tesson, mais absolument pas n'importe quel tesson, le premier tesson africain.
Oui, le premier tesson, je n'y croyais pas, c'est-à-dire que je l'ai ramassé.
Il n'est pas très beau d'ailleurs.
Il n'est pas très beau, je n'y croyais pas, c'était dans des sables grossiers, à 15 mètres de profondeur, je ne voyais pas ce que ce tesson pouvait faire là. Et puis on a petit à petit daté des charbons qui se trouvaient au-dessus de ce tesson, donc des charbons plus récents, et puis les dates ont commencé à devenir de plus en plus anciennes, 5000 avant Jésus-Christ, 7000 avant Jésus-Christ, 9000 avant Jésus-Christ. Et puis je me suis souvenu de ce premier tesson, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ce tesson, il est peut-être quand même finalement y reprendre quelque chose. Alors on a continué à creuser ce ravin de la mouche et on a trouvé un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième tesson. Et on s'est aperçu qu'il y avait une culture, un ensemble culturel, donc fait d'outils lithiques particuliers et de céramique particulièrement intéressant pour le continent et pour l'histoire de l'homme.
Alors ce qui est tout à fait capital, c'est que ces tessons ont 11 500 ans. Sont anciens de 11 500 ans, c'est à peu près ça. 9 400 ans avant notre ère.
Grosso modo, entre 9 500 et 10 000 avant notre ère. Donc, et ils sont contemporains. Donc, il faut savoir que l'Afrique a connu une période extrêmement aride, beaucoup plus aride que de nos jours. Et que vers probablement 10 000, 11 000 avant notre ère, ces zones continentales se sont recouvertes de plaines de graminées. Donc ça, ce sont les collègues qui travaillent dans notre équipe, et qui sont palynologues, qui sont sédimentologues, qui sont archéobotanistes allemands, français, de beaucoup d'universités, Angers, Caen, Rouen, Bordeaux, Francfort, etc., qui ont déterminé le contexte environnemental et climatique. Et on a ces vaste plaine de graminées qui couvre une zone quasiment désertique et on a une population qui revient. Donc ma théorie, c'est que l'Afrique de l'Ouest était totalement dépeuplée au sein du continent entre grosso modo 17 000 et 11 000 avant notre ère. Elle s'était concentrée le long des côtes, c'est là que nous avons les seuls sites archéologiques en Afrique de l'Ouest ou alors en Afrique centrale. Et elle recolonise l'Afrique au fur et à mesure que les plaines de graminées elles-mêmes reconquièrent avec le petit gibier, etc. etc. Tout va de pair. Et à un moment donné, on voit l'émergence de la céramique dans ce contexte de recolonisation de l'Afrique alors que le climat et la végétation se remet en place.
Éric Wiscombe, je rappelle pour nos auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes préhistorien, ethno-archéologue aussi, professeur à l'Université de Genève et travaillé au Mali, en pays Dogon notamment. Ce fameux tesson de 9400 ans avant notre ère, essayons de comparer cette découverte africaine avec le reste du monde, avec par exemple une des toutes première zone où émergèrent les sociétés de production, puisque cette céramique, c'est la preuve des premières sociétés de production. Comparons-le, par exemple, au Proche-Orient. Qu'est-ce que cela donne ?
Alors malheureusement, je pense que ce n'est pas comparable. Je pense que le contexte est très différent. Moi, je dirais plutôt le comparer avec le contexte asiatique, en Corée, en Sibérie, au Japon, où là, effectivement, on a des populations qui se mettent à un moment donné, dans le cadre d'une variation climatique importante, climatique et environnementale importante, se mettent à utiliser d'une manière systématique les ressources naturelles, à pratiquer une semi-sédentarité, donc ils commencent à s'installer et développent la céramique. Et je pense que le contexte de développement de la céramique en Extrême-Orient et en Afrique de l'Ouest est relativement semblable. Au Proche-Orient, c'est un autre cas. D'ailleurs, souvent, la céramique ne vient pas en premier.
Alors, il faut peut-être aussi citer la Chine, que vous n'avez pas citée, où l'on aurait les plus vieilles...
Chine, Japon,
voilà, on
Corée,
aurait les plus vieilles attestations de céramique au monde. Ça proviendrait récemment, cela a été annoncé, cela proviendrait de Chine autour de 20, 18 000 avant notre ère.
Oui, là, j'ai mis beaucoup de réserves sur cette découverte.
Pourquoi ?
Beaucoup de réserves sur cette découverte, parce que dans la première fouille qui a été menée, on a découvert plus de 280 tessons. Dans la fouille internationale de contrôle qui a été menée ensuite sous la direction d'un collègue américain, Bayosef, on n'a plus trouvé un seul tesson.
En Afrique, ce processus donc, d'émergence des sociétés de production est encore quand même assez flou, malgré tout.
À l'origine, oui. Par contre, l'approche actualiste que l'on a aujourd'hui des sociétés africaines montre quand même un modèle extrêmement intéressant de complémentarité. Où aujourd'hui, sur la plupart du continent africain, l'on a des populations de pasteurs qui ne font que du pastoralisme, qui vont s'installer à côté de populations d'agriculteurs qui ne font que l'agriculture, qui vont côtoyer des populations de pêcheurs. Et on a véritablement une synergie de populations à économie complémentaire. Et ça, c'est un modèle économique particulier que l'on retrouve, je dirais, de manière caractéristique en Afrique. On ne le retrouve pas que en Afrique, mais de manière caractéristique en Afrique. Et on peut supposer que ce modèle existait déjà de par le passé. Ce qui fait que mais ce qui fait que le concept de néolithique tel qu'on l'applique au Proche-Orient en Europe n'est pas applicable en Afrique. Parce que si vous devez l'appliquer en Afrique, c'est-à-dire des populations qui sont à la fois sédentaires, nomades, agriculteurs, productrices de céramique, etc., etc., vous avez encore plus de 50% des Africains aujourd'hui ne peuvent même pas être qualifiés de néolithiques, même s'ils ont la vidéo chez eux et une voiture devant leur porte. Donc là, il faut adapter le concept de néolithique au continent africain. Ça, c'est clair pour moi.
Alors c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous développez cette sorte d'approche pour votre terrain un peu particulier, avec cette notion de société aux économies variées et qui se serait donc développée en Afrique, et que ces sociétés à économies variées existent encore. Est-ce que l'on peut faire un lien entre le présent et le très très ancien ? Est-ce que vous avez tenté une sorte d'approche, on va dire, ethno-archéologique, pour faire simple, hein ?
Oui, donc dans notre équipe, nous avons des ethno-archéologues, notamment Anne Mayer, qui enseigne à l'Université de Genève et qui est spécialiste de l'ethno-archéologie à Genève, essaye de remonter dans le temps pour voir jusqu'où le modèle peut être applicable. Alors on peut remonter dans une certaine part dans le temps, par contre, je ne vais pas vous faire encore, je ne vais pas me risquer à des interprétations pour du néolithique ancien. Ça, je ne le ferai jamais. Par contre, on peut remonter jusqu'à plusieurs siècles pour une meilleure compréhension des sociétés, ça c'est sûr.
Il n'y a pas que l'agriculture. La cueillette sélective et intensive, donc, produit aussi les mêmes effets pour vous.
Il est clair que l'utilisation rationnelle des graminées sauvages apporte une part conséquente de subsistance et aussi implique à la fois une semi-sédentarité comme l'agriculture le produit. Alors, on a une agriculture très tardive en Afrique de l'Ouest.
Quelle époque, à peu près ?
En 2000-2200 avant notre ère.
Oui, c'est tardif.
Pour la première agriculture en tant que semence sélectionnée et labour. Par contre, on a très très tôt, peut-être déjà au 5e, au 6e millénaire avant notre ère, la preuve d'incendies intensifs, peut-être même de jachères. Donc on a une gestion des graminées qui existe bien avant l'agriculture en Afrique de l'Ouest.
Et tout ça serait donc qu'on récupère les graminées et on les aurait bouillies pour vous ?
Mais c'est-à-dire que l'amidon, donc, pour être assimilé par le corps, doit faire l'objet d'une cuisson. Les céréales doivent faire l'objet d'une cuisson. Donc autrement dit, pour les cuire, il faut quand même un récipient. Alors on peut imaginer des cuissons de céramique dans des rochers où on jette des pierres brûlantes. Mais pour cuire une céréale, c'est un peu compliqué. Le plus simple, c'est quand même d'avoir un récipient du style céramique. Et on peut imaginer que pour assimiler l'amidon de ces graminées, l'homme ait inventé la céramique. De même que pour les conserver d'ailleurs, pour les protéger des termites, etc.
Vous me parlez de graminées, de quelle graminée il pourrait s'agir ?
Il y a de très nombreuses graminées sauvages en Afrique qui sont consommables et qui sont encore consommées de nos jours. Et une de mes étudiantes avait d'ailleurs fait un travail où elle avait fait l'inventaire de toutes les graminées sauvages qui étaient encore aujourd'hui consommées dans les mauvaises années, les années de disette, par les populations locales. Et il y en a des dizaines, en fait, qui peuvent être consommées.
Et le sorgho, bien sûr, on pense au sorgho, le sorgho qui a été cultivé très tôt en Afrique. Aux recherches de Wendorf au Soudan.
Oui, alors le sorgho, l'origine du sorgho est très discutée. Notamment le sorgho qui avait été découvert par Frettendorf dans la vallée du Nil est considéré par certains chercheurs comme étant effectivement du sorgho domestique, par d'autres chercheurs, je pense notamment à Katharina Neumann de Francfort, comme étant du sorgho sauvage. Là où nous avons les preuves de la domestication, c'est pour le pénicétum, le petit mil. Et là, nous sommes dans des cadres beaucoup plus tardifs. Je vous disais 2200 pour l'Afrique subsaharienne, 3000-3500 maximum pour d'autres régions.
Est-ce que l'on ne pourrait pas dire que la présence de céramique dans une société entraîne forcément de profondes, voire de très profondes mutations au sein du groupe ? Quand vous avez des pots, vous ne fonctionnez pas comme...
D'office. Et puis, bon, ça implique quand même une certaine transformation du savoir, notamment pour la céramique. Vous devez savoir où se trouve l'argile qui permet de fabriquer des céramiques. Ce n'est pas évident. Il n'y en a pas partout. Toutes les argiles ne sont pas appropriées pour la fabrication de la céramique. Vous avez aussi une répartition en général du savoir technique, donc spécialisation. Et puis, bien sûr, toutes les céramiques ne sont pas transportables. Donc, il faut
différenciation aussi sociale, peut-être, même.
Différenciation sociale, certainement, aussi, qui intervient. Puis, bien sûr, après, il faut quand on se déplace, il faut retrouver des endroits où on peut refaire des céramiques. Donc, ça change quand même fondamentalement, je pense, la société.
Est-ce que, justement, là, on ne serait pas sur une définition de ce fameux néolithique, de ces premières sociétés de production, la transformation d'éléments naturels par l'homme ? Et par la même occasion, je dirais, l'emprise de la société sur l'environnement.
Mais du fait, effectivement, on ne peut pas trouver, on ne peut pas appliquer le concept néolithique comme on l'applique au Proche-Orient, à l'Afrique. Il faut essayer de trouver une autre définition. Moi, je suis complètement opposé au fait de dire que l'Afrique n'a pas connu le néolithique parce qu'on n'a pas connu le kit, c'est-à-dire élevage, agriculture, sédentarisation, céramique en même temps. Donc il faut trouver une autre définition et la céramique, elle est bien commode pour pouvoir définir un néolithique africain.
Mais c'est peut-être aussi que les archéologues, les préhistoriens sont trop figés dans leur propre définition. Il faut peut-être faire exploser tout ça.
Je ne vais pas vous dire le contraire.
Je pense que ça vient de ça. Alors, on a vu qu'il y avait de la céramique, peut-être donc de la collecte de graminées. Qu'en est-il de la domestication, par exemple, des bovidés ? Cela arrive aussi assez tôt en Afrique ?
Non, la domestication des bovinés intervient probablement assez anciennement en Afrique. Actuellement, on pense au 8e millénaire avant notre ère. Par contre, dans la zone sahélienne où nous nous trouvons, elle est très tardive. Du fait probablement de la mouche tsetse, qui est responsable d'une maladie qu'on appelle la trypanosomiase. Et le bétail n'étant pas résistant à la maladie transmise par cette mouche, il faut attendre que cette mouche recule pour amener du bétail. Or, cette mouche, elle est liée à une certaine pluviométrie, à l'isoïède des 1000 mm. Donc, tant que l'on est dans l'isoïède au-dessus des 1000 mm de précipitation par an, on a la mouche tsetse, on n'a pas d'élevage. Dès qu'on passe en dessous, on peut avoir de l'élevage. Alors, il y a des histoires d'espèces résistantes. Il y a quelques espèces résistantes en Afrique de l'Ouest, mais elles sont rares. Elles sont connues. On les étudie actuellement pour la production de viande dans certains pays, d'ailleurs.
Et puis, cette domestication des bovinés, c'est bien sûr ce que l'on peut voir dans les peintures sahariennes. Cela nous donne bien sûr une belle image. De par le monde, et notamment en Europe, les innovations du néolithique ont été empruntées. Nous sommes alors sur ce que l'on appelle des foyers secondaires liés à une diffusion. Avec vos recherches au Mali, doit-on parler de foyers primaires africain.
Là, manifestement, on est dans un foyer d'émergence de la céramique. Ça, c'est très clair, au même titre que l'Extrême-Orient. La céramique est née dans cette zone. Alors, je ne vais pas dire à Ondjougou même sur le site, mais dans cette zone-là, nous avons des populations qui inventent la céramique dans un certain contexte climatique et environnemental donné.
Et puis donc, on sait qu'à partir de 10 000 avant notre ère, nous sommes dans un climat assez favorable. Mmh. Il se trouve qu'il y a environ 4 800 ans, c'est-à-dire au tournant du 4e, 3e millénaire avant notre ère, le climat bascule, le désert réapparaît. Mais je dirais presque qu'il est déjà trop tard. Les sociétés néolithiques se sont déjà très bien implantées.
Oui, donc
c'est un peu ça l'histoire.
Il y a manifestement un repli de certaines populations vers les zones méridionales et aussi un remplacement de populations. Et on voit apparaître, durant le premier millénaire avant notre ère, des populations nomades, probablement les ancêtres des nomades actuels qui occupent le Sahara, qui vont petit à petit remplacer et qui vont changer d'économie, qui vont se tourner vers une économie du grand commerce et puis qui, petit à petit, vont devenir ceux qui vont maîtriser le grand commerce transsaharien, Touareg et Berbère et aux populations sahariennes.
En quelques mots, Eric Wiscombe, qu'est-ce que l'archéologie au Mali aujourd'hui ? Plus rien.
Oui, c'est dramatique, c'est-à-dire que l'archéologue dépend du contexte géopolitique. Et là, actuellement, que l'on soit européen ou africain, les recherches archéologiques au Mali sont rendues impossibles par la stabilité géopolitique. Et là, heureusement, on doit signaler une grande entraide, une entraide entre les Européens, mais aussi une entraide entre les chercheurs africains. Et c'est ainsi que, par exemple, les Sénégalais ont offert à toute notre équipe internationale, y compris aux Maliens, de venir travailler chez eux au Sénégal.
Eric Wiscombe, merci beaucoup. Et puis je signale l'apparition d'un livre, La naissance des divinités, naissance de l'agriculture de Jacques Covin, vient d'être réédité par CNRS Éditions, un livre déjà ancien qui a apporté beaucoup, mais très contredit aujourd'hui. La semaine prochaine, avec Joël Burnouf, le Salon Noir sera consacré à l'an 1000 et en partenariat avec les Cahiers de Sciences et Vie. Le Salon Noir était réalisé par Dany Journeau, à la technique Clément Berman, attaché d'émission Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr où vous retrouvez plus de 200 archives de l'émission sur le site inra.fr.